Ah, oui, donc voilà, je vais vous présenter Christophe. Alors, j'ai pris mes petites notes pour ne rien oublier. Donc, notre conférencier de ce soir. Donc, on a le plaisir de recevoir Christophe Burecoa, qui est responsable du laboratoire bactériologie hygiène au CHU de Poitiers. Donc, je vais prendre quelques casquettes. Hein, voilà. Donc, également professeur à la faculté de médecine de Poitiers, mais aussi un peu en lien avec la thématique de ce soir. Il est président du groupe français d'études des hélicobactères, dont il sera question ce soir, administrateur de la Société française de microbiologie, alors qu'il est société partenaire, hein, de l'organisation de ce soir. Et puis, il est également, et là, je le connais plus dans ce domaine-là, finalement, administrateur de l'école de l'ADN en Nouvelle-Aquitaine, qui est une association hébergée ici, qui co-organise là la soirée. Donc, et que je dirige là depuis 2006. Et alors Christophe, justement, reçoit au sein de cette association, par exemple, des lycéens. Il n'est pas que administrateur, il donne aussi de son temps pour partager un peu, voilà, ses travaux avec des lycéens tout au long de l'année. Voilà, alors pas de lien avec la faculté d'histoire, hein, même si le titre pourrait laisser penser, voilà, rien. Donc, ce que le titre pourrait laisser penser, ce dont on va nous parler un peu, hein, Christophe, ce soir, c'est la disparition de Napoléon. Alors, si on regarde un peu sur la première diapositive, on a ce geste connu, là, on pourrait se dire que Napoléon a un peu mal à l'estomac, donc on essaie de savoir un peu, hein, ce qui s'est passé. Voilà.
Merci Laurent, merci Christine pour cette invitation. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très content d'être ici parmi vous ce soir. J'appâte un peu avec le titre avec Napoléon, et puis c'est surtout pour moi l'occasion de vous parler d'une bactérie que j'aime beaucoup, sur laquelle je travaille depuis une trentaine d'années en recherche, qui est Helicobacter pylori. Mais on va parler de Napoléon, ne vous inquiétez pas non plus. Donc depuis la mort de Napoléon, le 5 mai 1821, il est mort à l'âge de 51 ans, hein, c'est très jeune quand on a notre regard actuel. Eh bien, les hypothèses ont été très nombreuses, il y a de très nombreuses controverses sur savoir de quoi est mort l'empereur. Vous savez qu'il est mort à Sainte-Hélène, en captivité, prisonnier des Anglais sur cette île au milieu de l'Atlantique, entouré par une espèce de petite cour de proches. Et donc, il y a pas mal d'hypothèses, avec plus ou moins d'arguments scientifiques, certaines assez étayées, d'autres pas tellement étayées. Donc, empoisonnement à l'arsenic, on en parle régulièrement. Peut-être que vous aurez des questions là-dessus. Je ne suis pas un grand spécialiste de ça. Insuffisance rénale, ulcère gastrique perforé, cancer de l'estomac et bien d'autres, parce qu'on lit régulièrement dans la presse différentes hypothèses sur ce décès de ce personnage célèbre. Sur cette liste-là, vous avez déjà deux causes qui sont l'ulcère gastrique perforé et le cancer de l'estomac, qui sont dues à cette bactérie dont je vais vous parler ce soir, qui est Helicobacter pylori. Donc on va revenir là-dessus. Donc Helicobacter pylori, bah, c'est une bactérie, vous la voyez ici en microscopie électronique, elle est avec une forme un petit peu spiralée, hélicoïdale, qui lui a donné son nom, hein, Helicobacter, avec des flagelles à l'arrière qui lui assurent une mobilité et qui lui permettent de se déplacer dans le mucus qui recouvre la paroi de notre estomac. Cette bactérie, elle a été découverte en 82 par deux chercheurs australiens, deux médecins, Steve Warren et Barry Marshall. On est en 82. Steve Warren, le plus ancien, là, qui a un petit air de Philippe Noiret, il est histologiste, anatomopathologiste. Vous voyez derrière lui, il y a un énorme microscope. Et son travail, c'est de recevoir dans son laboratoire des biopsies gastriques et de regarder s'il y a des ulcères, s'il y a des cancers. Et donc, il reçoit des biopsies, il les colore, etc. Il les fixe et il regarde et il voit s'il y a. Il répond comme ça au gastro-entérologue. Et puis, depuis quelques années, il s'est aperçu qu'en regardant dans les biopsies gastriques, quand il y a des ulcères, il voit des espèces de petits bâtonnets, comme s'il y avait des bactéries. Et il se pose des questions, il va faire un peu de bibliographie, rechercher dans la littérature, et puis il voit que ben, l'estomac est considéré comme quelque chose de complètement stérile, tellement c'est acide, qu'il n'y a pas de bactéries à l'intérieur, qu'il n'y a pas de raison qu'il voit des bactéries. Mais il se dit quand même, c'est un peu bizarre. Et puis arrive Barry Marshall. Barry Marshall, c'est un jeune interne de gastro-entérologie, et au cours de l'internat en Australie, on doit faire un stage de recherche, et comme il a bien aimé les cours de son patron d'Anapath, il vient le voir, il lui dit ben, trouvez-moi un sujet, ça m'intéresserait. L'autre lui dit ben, écoute, je vois des trucs, on va essayer de mettre en culture les biopsies que je reçois et de voir si on arrive à faire pousser une bactérie. Et donc, tu vas utiliser plein de milieux de culture différents, plein d'atmosphères de croissance, de températures différentes. Et puis, on va bien voir ce qui se passe. Et puis, au bout de 48 heures, en général, les bactéries, ça pousse en 24-48 heures. S'il n'y a rien, tu réétales un petit peu le prélèvement sur les boîtes de culture. Et puis, au bout d'un moment, on jette et puis on voit ce qui se passe. Et puis, Barry Marshall commence ce travail-là et arrive le week-end de Pâques 1982. Et le patron lui dit, c'est un week-end de 3 jours, on a dit que tu revenais toutes les 48 heures pour regarder les boîtes, tu reviendras donc le lundi de Pâques pour regarder ce qui se passe et puis continuer comme ça. Et puis, Barry Marshall, j'ai déjà dîné plusieurs fois avec lui, raconte qu'il avait prévu un week-end sur la plage avec les copains, la bière, le barbecue, etc. Et que le lundi, il ne va pas au laboratoire et que le mardi matin, il va au laboratoire très très tôt le matin, avant que le patron arrive, et il trie les boîtes pour montrer un peu comme s'il était venu la veille, quoi. Et quand il ouvre une jarre, une espèce de truc fermé, où il y a une atmosphère particulière à l'intérieur, qui est une atmosphère où il y a un petit peu moins d'oxygène que dans l'air qu'on respire, qui est à 21%, là c'est à 5%, là sur une gélose qui contient du sang, il commence à voir des toutes petites colonies. Et c'est la première fois qu'on arrive à faire pousser quelque chose à partir de l'estomac, et c'est la première fois qu'on arrive à faire pousser cette bactérie-là. Donc il fait des colorations, il regarde, et puis il voit cette bactérie étrange qu'on ne connaissait pas à l'époque, et qui a cette forme un petit peu en hélice, avec ses flagelles à l'arrière. Et puis il s'aperçoit que cette bactérie, il la retrouve que quand il y a des ulcères, et quand il n'y a pas d'ulcères, il n'y en a pas. Et donc ils se disent, c'est peut-être la cause de l'ulcère. Jusqu'à maintenant, l'ulcère était une maladie de désordre de la synthèse de l'acide, de l'acidité gastrique. Il y avait des grands pontes qui étaient les spécialistes de ça, qui disaient, il y a un désordre de la synthèse de l'acidité, donc on fait des ulcères parce qu'on fabrique trop d'acide, etc. Et puis eux, ils s'aperçoivent que finalement, il y a une bactérie chaque fois qu'il y a un ulcère, et que peut-être cet ulcère à l'estomac, ce n'est pas une maladie d'un trouble du métabolisme de l'acidité, mais ça serait peut-être une maladie infectieuse, et que ça serait vraiment cette bactérie-là qui entraînerait l'ulcère à l'estomac. Et cette découverte et ce petit mensonge de Pâques 1982, leur ont permis, avec d'autres travaux derrière, d'arriver au fait que oui, l'ulcère à l'estomac était une maladie infectieuse. Et pour être, c'est une révolution au sein de la gastroentérologie, parce que, ce que je vous disais, depuis des années, on traitait les gens avec des antiacides, puis ça allait un petit peu mieux, et puis ça reprenait, et puis quelqu'un comme ça, qui avait un ulcère à l'âge de 40-45 ans, il allait toute sa vie prendre des antiacides, et puis avec des rechutes, des récidives, etc., des périodes où ça va mieux, et puis ça recommençait sans cesse. Et puis là, ces deux gars-là arrivent et ils disent, c'est une bactérie, on peut traiter avec tel antibiotique, on dégage l'infection, et les gens guérissent complètement. Et ils ont eu énormément de mal à convaincre la société, tous les gastro-entérologues, parce que il y avait un espèce de conflit d'intérêts qui était important. À l'époque où ils ont découvert Helicobacter pylori, on venait d'inventer les inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont des médicaments qui permettent de diminuer l'acidité gastrique. Et donc, de lutter contre les douleurs qu'on peut avoir quand on a un ulcère. Et les fabricants de ces inhibiteurs de la pompe à protons s'étaient dit dans les années 80, c'est formidable parce qu'on a un marché monstrueux. Le nombre de gens qui ont des ulcères à l'estomac est très important, surtout dans les pays riches. Et quand un ulcéreux déclare son ulcère à l'estomac à 40-45 ans, toute sa vie, il va prendre des inhibiteurs de la pompe à protons. Ils avaient réussi à négocier avec la sécurité sociale, tout ça, des remboursements assez chers. Et donc l'action de ces boîtes a monté en flèche. Et puis ces deux gars-là arrivent en disant, c'est une maladie infectieuse, on va vous dégager ça avec des antibiotiques et on n'en reparle plus. Et du coup, il y a eu des groupes de pression qui ont été mis en place, à la fois par les vieux pontes qui étaient les spécialistes de la sécrétion acide et par ces laboratoires pharmaceutiques qui avaient des gros intérêts là-dessus pour essayer à chaque fois de les contrer. Et dès le début de leur découverte, ça a été très compliqué pour eux. Ils présentent un résumé à la Société australienne de gastroentérologie en 82 et ils sont refusés. Parce que le lobby derrière commençait à agir. Il leur a fallu plusieurs années pour que leur premier article puisse sortir pour dire « Oui, on trouve ça chaque fois qu'il y a un ulcère. Oui, on peut guérir l'ulcère avec un antibiotique, etc. » Et donc, il y a eu cette lutte, ce lobby de l'industrie pharmaceutique associé avec des grands pontes de gastroentérologie. Pendant des années et des années, on continuait à lutter contre cette découverte, et alors que maintenant on sait que plein de gens n'ont peut-être pas été traités comme il fallait dans les années 80-90, parce qu'il y avait ce lobby, alors que cette bactérie, maintenant on sait qu'elle donne le cancer de l'estomac, et que peut-être des gens ont évolué vers un cancer, et qu'ils auraient pu être traités à l'époque. Alors cette grande découverte leur a valu le prix Nobel de médecine en 2005, et je n'ai pas résisté au plaisir de mettre ma photo avec Barry Marshall, qui a perdu un petit peu son aspect de Patrick Devers, vous avez vu sur la photo d'avant, mais qui est toujours très présent dans les congrès. Barry Marshall s'est fortement impliqué parce qu'à une époque, il a fallu réussir à prouver que ça entraînait bien un ulcère à l'estomac. Il n'y avait pas de modèle animal pour prouver ça. Vous savez que c'est très important d'avoir un modèle qui reproduit la maladie pour prouver que quand on met la bactérie, ça donne la même maladie que chez l'homme. Et bien, il est allé jusqu'à boire une suspension d'Helicobacter pylori pour prouver que ça donnait bien un ulcère. Et j'avais dîné avec lui et sa femme, et il faisait un espèce de show avec cette histoire-là. Et il avait décidé de faire cette manip. Alors, maintenant, on n'a plus le droit de faire des manips sur soi-même. Hein. C'est complètement pas éthique. On ne pourrait même pas publier dans une revue scientifique en disant « j'ai fait une manip sur moi ». Non, non, c'est absolument interdit. Bon, à l'époque, ça passait encore. Donc, il s'est fait faire une fibroscopie par un de ses collègues qui a vérifié que son estomac était magnifique, qu'il n'y avait pas d'ulcère, que tout allait bien. Il a fait une biopsie pour montrer qu'il n'y avait pas la bactérie. Et puis, il a bu la suspension d'une bactérie qu'il avait isolée chez un patient qui avait un ulcère. Et puis, il a attendu. Et puis, il n'a rien dit à sa femme. Et puis, au bout d'un moment, il commençait à avoir mal, à se tordre un petit peu. Ça allait... Ouais. N'était pas bien, et puis au bout d'un moment, sa femme lui dit « Mais écoute, Barry, il se passe quelque chose, dis-moi. » « Non, non, t'inquiète pas, non, tout va bien, tout va bien. » Il arrive à traîner comme ça un petit peu, et puis au bout d'un moment, elle lui dit « Mais écoute, non, il faut que tu me dises quelque chose, là, ça va pas, je vois bien que ça va pas. » Il lui dit « Ben voilà, j'ai fait ça, j'ai bu de l'hélico. » Elle lui dit « T'es complètement taré. » Donc, demain, tu rentres à l'hôpital, tu te traites, je veux plus en entendre parler. Alors lui, il traîne un petit peu. Et avant que son couple n'explose, il se fait faire une fibroscopie par un de ses collègues. Et il y a un début d'ulcère, il biopsie, il y a la bactérie qui est présente. Et donc, ça prouve que cette bactérie, en quelques semaines, peut entraîner un ulcère à l'estomac. Donc, c'est pour vous dire l'implication que ce chercheur a eue dans sa vie scientifique pour aller jusqu'à expérimenter sur lui-même. Depuis, on sait que cette bactérie, elle colonise l'estomac, la muqueuse gastrique humaine, que l'estomac et que chez l'homme. Il y a d'autres hélicobactères qui existent, on en parlera tout à l'heure, chez des animaux. En fait, chaque animal qui a un estomac avec de l'acidité va avoir son espèce d'hélicobactère à l'intérieur. Donc les singes ont des hélicobactères, etc. Tous les mammifères qui ont un estomac acide vont avoir un hélicobactère à l'intérieur. Cette bactérie, elle infecte 50% de la population mondiale. C'est extrêmement fréquent. On verra tout à l'heure qu'en France, c'est 30%, donc ça veut dire qu'il y en a 7 ou 8 dans la pièce qui ont sûrement cette bactérie dans l'estomac. La transmission, elle est interhumaine, puisque c'est que chez l'homme, elle est familiale. On attrape cette bactérie de sa maman et de ses frères et sœurs dans les premières années de notre vie. Ça va entraîner, on va le voir, différentes pathologies, gastrite, ulcère, cancer gastrique. Pas toujours des cancers, hein, heureusement. On verra que c'est 1 à 2% des gens qui sont infectés, mais 1 à 2% de 50% de la population mondiale, c'est quand même extrêmement fréquent. Et puis on a des traitements maintenant qui sont des trithérapies orientées ou des quadrithérapies. On ne viendra pas dans les détails, à moins que vous me posiez des questions sur ces techniques de traitement. On associe en général plusieurs antibiotiques avec un inhibiteur de la pompe à protons. Hein, c'est ce médicament dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on ne va pas donner toute la vie de l'individu, on va donner 10 jours ou 14 jours, et puis après, on va être débarrassé de la bactérie. Et c'est intéressant parce que ce modèle d'infection est intéressant parce que c'est la seule bactérie qui donne un cancer chez l'homme, et on appelle ça un carcinogène de classe 1. Vous connaissez un carcinogène de classe 1 qui est le tabac. Hein, le tabac entraîne le cancer, et bien Helicobacter pylori entraîne le cancer de l'estomac, au même titre que le tabac entraîne le cancer du poumon. Alors, depuis 82 et la découverte, on a beaucoup progressé sur cette notion de cancer dont on va reparler parce que Napoléon vraisemblablement avait un cancer de l'estomac. Et puis on n'en parlera pas aujourd'hui, mais à force de traiter les gens avec des antibiotiques contre cette bactérie-là, ben on a évidemment développé de la résistance aux antibiotiques, ce qui fait qu'on a des échecs de traitement parce qu'il y a des résistances et on a été obligé de changer un petit peu de stratégie dernièrement pour pouvoir adapter les traitements. Mais on ne parlera pas de ça ce soir. Je vous disais, 50% de la population mondiale a cette bactérie dans l'estomac. Il y a des grandes variations de ce pourcentage selon les pays et même à l'intérieur des pays. Vous voyez que dans les pays développés, en Europe, aux États-Unis, je n'ai pas mis le Japon ici, l'Australie, on est à peu près à 30% de la population qui est infectée par cette bactérie. Et puis, dès qu'on est dans les pays en développement, eh bien, on monte à 80, 70, vous voyez, 90% sur une étude qui était chez les Inuits, les Esquimaux en Alaska. Donc là, des populations très, très fortement infectées. Et puis, quand on regarde à l'intérieur des pays, eh bien, si on regarde en France, eh bien, tous les gens qui sont originaires des pays où il y a des forts pourcentages, eh ben, c'est eux qui vont être le plus souvent infectés. Et typiquement, en France, ben, toutes les populations issues du Maghreb, d'Afrique, etc., eh ben, sont plus fortement infectées que les Poitevins de souche depuis 18 générations qui ont une prévalence de la maladie qui diminue un petit peu. Cette forte prévalence, elle est fortement liée au bas niveau socio-économique et quand il y a des fratries importantes, hein, je vous ai dit que ça se transmettait avec ses frères et sœurs, ben plus on a de frères et sœurs, plus on a vécu en promiscuité familiale, plus on a de risques d'avoir transmis la bactérie à l'ensemble de la fratrie. Et donc, bas niveau socio-économique, fratrie importante, là aussi, ça en fait une maladie de migrants, une maladie de populations qui ont des difficultés. Il n'y a pas de différence selon le sexe, les hommes sont autant infectés que les femmes. L'infection, elle est acquise dans l'enfance, je vous disais, dans les premières années de notre vie. Hein, ce n'est pas quelque chose que vous allez attraper quand vous êtes adulte, vous l'attrapez quand vous êtes tout petit. On a fait des études chez des couples avec un infecté et pas l'autre. Et ben, il n'y a jamais de transmission. Quoi. Tout ce qu'ils peuvent faire ensemble, il se passe jamais, la bactérie ne passe pas d'un adulte à un autre. Elle ne passe que de la maman ou de la nounou aux enfants et puis entre enfants. Alors pourquoi ça passe à cet âge-là et comment ça passe ? On ne sait pas très bien. On ne sait pas si ça passe par le haut, par des vomissements, ou si ça passe par le bas au cours d'épisodes de gastro-entérite familiale, hein, on est en période de gastro-entérite, et ben c'est au cours de ces moments où tout le monde est pas bien, vomit un peu la diarrhée, que ça se transmet visiblement dans les familles. Alors, dans de nombreux pays développés, dont le nôtre, on a une forte chute de la prévalence, du pourcentage de l'infection. Et là, je vous ai mis une étude faite par des Finlandais qui ont comparé dans le sang de femmes de 20 à 34 ans, dans le sang de femmes enceintes, qui avaient des bilans, pour, comme toute femme enceinte, pour savoir s'il y a la syphilis, le sida, la rubéole, la toxoplasmose. Et ben, ils ont ressorti du congélateur des sérums de 73 et ils ont comparé avec des sérums de 95. Et vous voyez qu'on trouve des anticorps contre Helicobacter pylori en 73 chez 38% des jeunes femmes et chez 12% seulement en 95. Donc une chute très très importante de cette infection dans les pays développés, qu'on retrouve un peu partout. Cette publication est très parlante, mais on la retrouve partout. Et en dessous, je vous ai mis deux courbes qui sont le pourcentage de personnes infectées en fonction de l'âge. Et vous avez une première courbe comme ça qui monte tout doucement, pratiquement de 1% par an. C'est celle qu'on observe dans les pays développés. Et vous voyez, 10%, à 10 ans, 10% des gens sont infectés. À 70 ans, 70% des gens sont infectés. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui attrapent encore cette infection à 70 ans, ça veut juste dire, c'est ce qu'on appelle en médecine un effet cohorte, ça veut dire que les gens de 70 ans, quand ils ont attrapé cette infection il y a 65 ans, on va dire, ou 67 ans, eh ben 70% de la population était infectée. Et qu'il y a 70 ans, 70% de la population était infectée, il y a 50 ans, 50%, et vous voyez, on a une espèce de baisse comme ça qui est très très importante. Quand on fait des études en milieu pédiatrique en France actuellement, ben on n'en retrouve pratiquement pas d'infection, à part chez les enfants qui viennent de populations migrantes, là où il y a des fortes prévalences dans leur pays d'origine. La deuxième courbe, c'est la courbe qu'on observe dans les pays en développement, et là on a une acquisition très très rapide, et pratiquement à 20 ans, tout le monde est infecté. Et donc là, c'est vraiment la courbe de l'infection qui va jusqu'à ce que pratiquement toute la population soit infectée. Donc si on revient à notre histoire de Napoléon, il meurt en 1821, il est très vraisemblable que même nous, quand on regarde ces chiffres-là, il y a 100 ans, tout le monde devait être infecté en France. Hein, c'est ce que nous disent ces courbes. Et que jusqu'au début du XXe siècle, l'humanité entière était infectée par Helicobacter pylori. Et Napoléon Bonaparte, qui est né en 1769, ben, il a dû attraper son hélico comme tout le monde en 1770-71, et qu'à cette époque-là, tout le monde avait cette infection. Donc il est sûr que Napoléon, comme tout le monde à l'époque, était infecté par Helicobacter pylori. C'est intéressant de voir que cette bactérie, elle a infecté l'humanité depuis toujours. Et qu'on peut se servir de la diversité génétique de cette bactérie pour retrouver la structure des populations humaines. On arrive en étudiant cette bactérie qui est très liée à l'humanité, puisqu'on l'attrape de notre maman, et puis on la refile à nos enfants, etc. Et donc c'est un petit peu comme nos gènes, sauf que nos gènes ne varient pas suffisamment pour qu'on voit des petites différences. Alors que la bactérie, elle, va beaucoup plus muter, et on va pouvoir observer facilement des différences. Et quand on prend des bactéries dans le monde entier, ici en Europe, mais en Afrique, en Asie, en Amérique, etc., et qu'on va étudier le génome de ces bactéries en le séquençant, et qu'on va comparer toutes ces séquences, on arrive à faire des espèces de groupes, où on voit que là, par exemple, en marron, c'est toutes les souches qui sont européennes, que vous voyez que les souches asiatiques qui sont ici sont en vert, elles se regroupent ici, que des souches de l'Afrique du Sud sont en rouge ici, et sont un petit peu à l'écart. Et tout ça, ça nous permet de reconstruire un espèce d'arbre généalogique des hélicobactères transmis dans l'humanité d'un estomac à l'autre au fur et à mesure des centaines de milliers d'années que vit Homo sapiens. Et donc, on voit que l'ancêtre des hélicobactères dans le monde, et peut-être l'ancêtre de l'humanité, du coup, l'ancêtre des Homo sapiens, ils viennent de cette zone-là, qui sont des populations qui sont en Afrique du Sud actuellement, mais qui ont dû migrer au néolithique depuis l'Afrique centrale, où est né Homo sapiens. Et on retrouve dans l'estomac de ces Africains du Sud, qui sont des populations khoisanes, des gens qui parlent avec des clics dans leur langage, qui sont des populations très ancestrales de chasseurs-cueilleurs, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et ces gens-là ont des hélicobactères qui sont les ancêtres de tous les autres, qui ont dérivé à partir de ceux-ci. Et donc ça veut nous dire que ces gens qui vivent dans le bushman là, du sud, de l'Afrique du Sud, et qui vivaient jusqu'à il y a 50 ans pratiquement tout nus avec un arc et des flèches, c'est sûrement des ancêtres des premiers Homo sapiens qui sont nés dans la corne de l'Afrique et qui ont migré par là, mais qui ont migré après dans tout le reste du monde. Il y a d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes. Vous voyez qu'on a cette couleur-là qui est l'Afrique centrale. On retrouve ce violet aux États-Unis, dans les Antilles. En fait, on retrouve la trace de la traite négrière. On retrouve des gens qui sont originaires des côtes africaines, qui ont été raptés et transférés grâce aux bons soins de Rochelet, de Nantais, qui faisaient du trafic triangulaire, et qui ont amené ces populations-là en Amérique et dans tout l'arc antillais pour faire du coton, pour faire de la canne à sucre, etc. Et donc, dans l'estomac de ces gens-là, on retrouve leurs traces africaines, puisque leurs hélicobactères sont typiques d'hélicobactères complètement africains. J'ai un collègue qui travaille sur la Polynésie et qui montre que les hélicobactères pylori qu'on trouve chez les Polynésiens sont issus d'une île qui est par là, vers Taïwan, d'une tribu qui serait partie il y a 5000 ans peupler les différentes îles du Pacifique en emportant leurs hélicos dans l'estomac. Et on retrouve cette trace-là dans l'estomac des Polynésiens actuellement. Donc vous voyez, on arrive avec cette bactérie qui est très fortement liée à l'humanité à revoir l'histoire de l'humanité. Donc on arrive avec ça à calculer même des périodes de temps et à voir que on arrive à retracer que les premiers hélicos sont nés par là, c'est un peu là où on sort les premiers Homo sapiens, et puis qu'il y a eu des migrations avec une première sortie d'Afrique il y a pratiquement 70 à 100 000 ans, puis une deuxième sortie d'Afrique il y a 50 000 ans, c'est ce qu'on retrouve aussi en anthropologie, et puis une migration qui fait que les souches dérivent et vont peupler l'Asie par là, et puis ce retour vers l'Europe avec des souches qui se croisent entre celles qui étaient africaines ici au Moyen-Orient et puis celles qui reviennent d'Asie pour peupler l'Europe, et puis avec un peuplement qui redescend sur le nord de l'Afrique avec des souches qui sont typiquement tout le Maghreb. Les gens du Maghreb sont infectés avec des souches qui sont des souches très proches de toutes celles qu'on peut trouver en France et en Espagne. Donc c'est vraiment, ça montre qu'il y a eu des migrations successives, et on le sait parce qu'à une époque, le Sahara était beaucoup plus humide et plein de gens sont descendus, poussés par la calotte glaciaire qui descendait sur l'Europe, on passait le détroit de Gibraltar pour peupler cette zone-là, puis sont remontés après quand c'est redevenu sec. Il y a eu au Moyen-Âge des pirates qui ont rapté, on pense que c'est 700 000 personnes qui ont été prises en Europe pour être amenées en Afrique du Nord, au début comme esclaves et puis très vite intégrées dans la population. Donc on a dans toute cette population maghrébine des hélicobactères qui sont des hélicobactères européens. Et ça veut dire un peu aussi que tous les gens du Maghreb, en fait, c'est la même origine, c'est une origine très européenne. Donc vous voyez, c'est extrêmement intéressant de voir ce qu'on peut faire dire à cette bactérie en récupérant la séquence qu'on trouve dans les bactéries de l'estomac de tous les individus dans le monde entier. Donc je vais passer là-dessus. Et puis du coup, on peut retracer toutes les migrations humaines. On montre que des souches asiatiques ont passé le détroit de Bering il y a 12 000 ans pour peupler toute l'Amérique. Les Indiens d'Amérique, à la fois les Sioux, les Arapahos qu'on connaît bien, et puis même les Indiens d'Amérique du Sud, sont tous descendants de souches asiatiques, et donc sont des Asiatiques qui sont passés par le détroit de Bering, qui était à sec à l'époque, parce qu'il y a eu une période glaciaire. Et donc, vraiment, c'est passionnant, parce qu'on retrace avec cette bactérie plein de choses. Il y a un autre article qui est sorti avec des collègues, c'était au Ladakh, avec dans la même vallée une population musulmane et une population hindouiste, et avec des gens qui étaient en heurts permanents et puis qui réclamaient l'origine dans cette vallée depuis une éternité comme étant soit musulmans, soit hindouistes. Et quand ils ont étudié les hélicobactères de ces deux populations, c'était exactement les mêmes. Donc c'était juste une différence de sociale, on va dire, de culturelle, qui faisait que ces gens croyaient avoir divergé, mais en fait étaient exactement de la même origine. Alors on trouve des hélicobactères, je vous ai dit, dans l'estomac de plein d'animaux. Donc je vous ai mis... Helicobacter pylori, il est ici. Et puis vous voyez qu'on trouve d'autres représentants de cette famille des hélicobactères, mais dans plein d'autres animaux. Et alors ce qui est amusant, c'est que celui qui est le plus proche d'Helicobacter pylori, c'est celui-là. Et on s'attendrait à trouver un hélicobactère de grand singe, pour expliquer notre paternité avec les grands singes. Et bien on trouve celui du guépard, Acidonychis. Et du coup, des collègues ont fait une étude qui était intéressante. Ils ont été séquencés les hélicobactères Acidonychis qu'on trouvait chez les guépards, et puis ils ont comparé avec les séquences que je vous avais montrées tout à l'heure, avec les grappes humaines, avec Europe, Asie, etc., et puis Africa 2, qui était cette origine africaine. Et on voit que ces hélicobactères de guépards se regroupent très proches de l'origine des hélicobactères, ils disent à peu près... Il y a 200 000 ans, ça aurait divergé pour donner ces hélicobactères de guépard. Et le titre de leur article, c'est « Qui a mangé qui ?» Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est un de nos ancêtres qui a mangé un guépard et qui a attrapé un hélicobactère de guépard, ou est-ce que c'est un guépard qui a mangé un de nos ancêtres dans la savane il y a 200 000 ans et qui a attrapé comme ça cette bactérie? Et en fait, ça serait vraiment la bonne hypothèse. C'est qu'un de nos ancêtres dans la savane africaine a dû se faire manger par un guépard, et... Les guépards, ils mangent en premier les viscères, parce que c'est riche en fer, etc. Et il a dû manger l'estomac, et en mangeant l'estomac, c'est infecté avec cet hélicobactère pylori africain de nos origines, et c'est depuis passé dans l'estomac des guépards. Donc vous voyez ce qu'on arrive à faire dire à ces travaux de séquençage et d'études génétiques à partir de ces bactéries, donc c'est assez amusant. Alors qu'est-ce que ça donne, hélicobactère pylori ? On se met dans la position où on est un petit bébé et puis sa maman vient de nous le transmettre, ça va donner au début une gastrite aiguë. Alors c'est quoi une gastrite? Souvent on dit j'ai une gastrite, c'est quand j'ai bu un peu de vin blanc sucré et puis un peu de chocolat et ça fait mal au ventre. C'est pas du tout ça. Une gastrite, c'est quand il y a dans la muqueuse de l'estomac, là vous avez la muqueuse de l'estomac avec des cryptes et puis en dessous il y a du tissu conjonctif. Et normalement le tissu conjonctif c'est assez clair et là il y a plein de petits points. Et ça ce sont des cellules, des lymphocytes, des polynucléaires qui sont dans la muqueuse et qui sont là parce qu'ils sont attirés et c'est une inflammation. Quand il y a une inflammation, il y a souvent ces cellules du sang qui passent dans les tissus et qui sont présentes. Donc dès qu'on a Helicobacter pylori, on a cette inflammation, on a une gastrite aiguë. Et puis cette gastrite aiguë, en quelques semaines à quelques mois, elle va s'installer sous forme d'une gastrite chronique. Et puis si on ne prend pas de traitement antibiotique, si on ne se traite pas contre Helico, ça va rester toute notre vie. Et 85% des gens qui sont infectés par Helico vont avoir cette gastrite chronique stable, mais la plupart du temps complètement asymptomatique, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent compte de rien. Ils ont cette bactérie dans l'estomac, ce n'est pas normal puisque ça donne une inflammation, mais il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien du tout, et tout va bien. Donc si cette bactérie restait dans ce cas-là, 85% des gens, c'est quand même assez important, tout irait bien. Malheureusement, il y a 15% des gens qui vont faire d'autres maladies dont je vais vous parler maintenant et qui vont évoluer vers des choses plus graves. Donc en fonction de là où est l'infection dans l'estomac, soit elle est dans le bas de l'estomac, soit elle est dans l'ensemble de l'estomac. Vous avez reconnu, c'est un petit dessin que j'ai fait qui n'est pas terrible, mais bon, on reconnaît la forme de l'estomac avec l'œsophage qui arrive par là, l'estomac ici, et puis le duodénum qui commence ici, puis vous aurez tout l'intestin qui est en dessous. Donc là, l'infection se met dans le bas de l'estomac, et ben, on va avoir une hypersécrétion acide. Vous savez que dans l'estomac, on a des cellules qui fabriquent de l'acide chlorhydrique. Et ben, ces cellules, elles sont dans le haut de l'estomac, et dans le bas, il y a des cellules qui régulent cette activité. C'est-à-dire que là, ça fabrique de l'acidité, l'acidité descend, et là, il y a des cellules qui disent « Ah, tiens, il y a de l'acide, je vais envoyer un espèce de frein pour freiner un peu cette sécrétion acide, pour ne pas en fabriquer trop. » Et là, comme on a une infection ici, avec une inflammation ici, on détruit les cellules qui régulent cette synthèse, et du coup, ça va s'emballer, il n'y a plus de frein, et celles-là vont sécréter de l'acidité. Cette acidité va descendre. Tant qu'elle reste dans l'estomac, tout va bien, parce que la paroi de l'estomac, elle est vraiment faite pour supporter l'acidité. Mais dès que ça arrive dans le duodénum, eh bien, ça va faire un trou, parce que le duodénum, là, ce n'est plus du tout le même épithélium, ce n'est plus du tout la même paroi, et l'acidité va pouvoir le ronger complètement et faire un ulcère duodénal. C'est ce que ont 10% des gens qui ont une infection à Helicobacter pylori. Quand on est de l'autre côté, avec cette infection dans l'ensemble de l'estomac, eh bien, on va pouvoir faire un ulcère gastrique, dans 4% des cas. Donc l'ulcère duodénal, il est dans le duodénum ici. L'ulcère gastrique, il est un peu plus haut ici, dans l'estomac. Et puis, le problème, le plus gros problème, c'est que tout ça, ça peut se traiter avec le traitement dont je vous ai parlé tout à l'heure. En 10 ou 14 jours, on arrive à débarrasser les gens et ils n'ont plus d'ulcère derrière. Et puis, des gens qui ne se rendent compte de rien, ben, vont avoir une évolution qui va aller vers différentes étapes, comme ça, qui vont mener jusqu'au cancer de l'estomac. Et donc 1% des personnes qui sont infectées vont déclarer un cancer de l'estomac. 1%, c'est pas grand-chose, sauf que 1% de 50% de la population, c'est énorme. Et en France, on a 6000 nouveaux cas de cancer par an, de cancer de l'estomac, dû à Helicobacter pylori. 99% des cancers de l'estomac, c'est dû à cette infection par Helicobacter pylori. Et puis un autre cancer qui est donné aussi par cette bactérie-là, c'est... on va voir se développer au niveau de la paroi de l'estomac des tissus lymphoïdes qui vont évoluer, et ça peut évoluer et dégénérer vers un lymphome. Et ce lymphome, c'est une sorte de cancer, un petit peu différent de celui qui est ici. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que maintenant, on sait que ces lymphomes, qu'on traitait avant par des chimiothérapies, par des radiothérapies, par enlever la moitié de l'estomac, et bien maintenant, on donne un traitement contre Helicobacter pylori, 10 ou 14 jours de traitement antibiotique, et on en guérit 60%. Donc c'est le premier cancer qu'on guérit avec des antibiotiques. C'est vous dire le lien très fort qu'il y a entre cette bactérie-là et le processus cancéreux qu'on observe ici. Alors on revient à Napoléon, qui va être un peu le fil rouge de cette soirée. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans tous les témoignages qu'on obtient et qu'on peut relire, parce qu'il y avait plein de témoins qui étaient là et qui ont écrit des bouquins sur les derniers jours de Napoléon, les dernières années de Napoléon, parce que, évidemment, toutes ces personnes-là ont fait des livres parce que ça se vendait bien derrière. Et bien, on peut retracer l'évolution clinique de l'empereur dans les derniers mois de sa vie. Et on a un témoignage qui est assez intéressant, c'est qu'il avait un médecin personnel qui s'appelait le docteur Francesco Antomarchi, qui était auprès de lui et qui était là pour s'occuper de lui, le soigner, l'accompagner, et qui jouait aux échecs avec lui, etc. Et donc, qui était assez proche de lui et qui rapporte un petit peu ce qui se passait. Et quand on regarde bien, tout ce qu'il nous décrit comme signe, c'est assez compatible avec l'évolution terminale d'un cancer. Il note que l'empereur était extrêmement fatigué, on appelle ça en médecine, une forte altération de l'état général, qu'il y avait une perte de poids très, très importante. Il n'était pas en volume le quart de ce qu'il était auparavant. Alors, il faut beaucoup se méfier aussi de ces témoignages qui sont un petit peu avec beaucoup d'emphase, hein, parce qu'on parle de l'empereur, et puis on en parle dans des bouquins qu'on veut vendre derrière, donc des fois, il faut un petit peu regarder. Il parle de sueur nocturne, etc., et tout ça, c'est vraiment des signes qu'on retrouve dans des évolutions assez avancées de cancer. On retrouve aussi des douleurs à la déglutition, des douleurs digestives, des douleurs abdominales diffuses, et puis surtout, quelques jours avant sa mort, hein, je vous ai dit 21 mai, eh ben, il a vomi du sang, il a eu du sang dans les selles, et ça montre qu'il y a eu une hémorragie digestive haute sûrement au niveau de l'estomac, et donc une semaine avant son décès. Et le 22 avril, c'est lui-même Napoléon qui dit « Je le sens, c'est l'estomac qui est attaqué ». Bon, le malade n'a pas toujours raison quand il donne des signes, mais quand même, il faut écouter les malades. Donc on a des signes qui nous font penser que, ben oui, il y avait quelque chose au niveau de l'estomac. Et puis quand on regarde dans des textes plus anciens, qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de Napoléon ? Alors déjà, vous avez ce geste intrigant, Napoléon qui a toujours sa main comme ça, c'est un peu son signe de reconnaissance. Hein. On dit que c'était un signe de distinction à l'époque, etc. Mais quand on pense où est-ce qu'il met sa main, il la met sur l'estomac. Et il devait avoir des douleurs à l'estomac. Et on a des témoignages où, en 1806, il raconte au comte de Lobo, c'est dans la mémoire de la comtesse de Ségur, un épisode de gastralgie. En fin 1808, des crises de douleurs gastriques intenses qui sont répétées, et c'est son médecin de l'époque, Jean-Nicolas Corvisart des Marais, qui rapporte ça dans ses mémoires. Et puis pratiquement à chaque bataille, il avait des douleurs. Alors souvent, je comprends qu'il ait des stress importants quand il y a des batailles et que ça entraîne des douleurs gastriques, mais on sait qu'il prenait des espèces de mélanges avec des œufs crus plus du Cointreau, des trucs pas possibles pour essayer de calmer ses douleurs à l'estomac qu'il avait pratiquement sur chacun chaque veille de grande bataille, donc la veille de Waterloo, etc. 1818, une douleur sourde à l'estomac. Et puis on a une étude qui est assez rigolote par des collègues italiens qui ont voulu prouver qu'il y avait une perte de poids très importante, comme c'était raconté dans les mémoires de son médecin. Et ils sont allés chercher tous les pantalons de Napoléon qui étaient dans les musées d'Europe entière, même aux États-Unis. Et ils avaient des dates de savoir quand est-ce que ce pantalon avait été porté, et du coup ils ont pu modéliser le poids de Napoléon en fonction des différentes étapes de ces pantalons-là et des signes de reprise par la couturière de Napoléon à l'intérieur. Et ils montrent comme ça, avec 12 pantalons portés par Napoléon de 1800 à 1821, ils arrivent à modéliser le poids de l'empereur et montrer que il était devenu un peu obèse, hein, parce qu'il n'était pas très grand. Il était passé de 67 à 90 kilos jusqu'en 1820, et puis la dernière année de sa vie, il avait perdu 11 kilos. Et perdre 11 kilos, ça aurait pu être un régime très draconien pour être en meilleure forme, mais ce n'était pas tout à fait les idées de Napoléon. Et on pense vraiment que cette perte très importante de foie est compatible avec une phase cachectique de fin de vie d'un cancer de l'estomac. On a des arguments autopsiques, et son médecin qui l'avait suivi pendant toute sa période à Sainte-Hélène, le docteur Francesco Antomarchi, était anatomiste, et quand il est mort, il a disséqué son client pour voir un peu ce qui se passait. Et puis il devait le faire, hein. On verra que Napoléon l'avait demandé, et puis même les Anglais ont exigé qu'il y ait aussi une autopsie. Les Anglais, c'était plus pour se dédouaner, pour dire c'est pas nous qui l'avons tué, il est mort tout seul de son côté. Et donc Antomarchi a disséqué, et on a toujours la trousse de dissection d'Antomarchi. Alors il y a eu un masque mortuaire qui a été fait de Napoléon, et puis ce croquis qui montre l'abdomen ouvert avec la dissection qui est en cours. Et il nous explique, il nous relate ça dans un de ses rapports. L'estomac est rempli en partie d'une substance liquide noirâtre, d'une odeur piquante et désagréable. Et c'est typique de la présence de sang en décomposition dans l'estomac. Il est le siège d'un ulcère cancéreux fort étendu. Alors cancéreux à l'époque, il maniait ça n'importe comment, puisque ils n'avaient pas d'anatomopathologie, ils n'avaient pas de cytologiste qui a gardé les cellules et qui disait oui, il y a un cancer ou pas. Donc on met du cancéreux, des fois on n'en met pas, des fois on parle de squir. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais on a quelque chose qui est très très étendu. Vous voyez que c'est qui fait plus de 10 cm, avec un trou, une perforation de 6 mm, bouchée par une adhérence au lobe hépatique gauche. Donc voilà, et puis assiste à cette autopsie d'autres médecins, évidemment les médecins anglais, parce qu'il fallait contrôler tout ce qui se passait. Et on a aussi des rapports d'autopsie rédigés par Archibald Arnott, qui était médecin de marine, qui était là aussi pour surveiller ce qui se passait, et qui était présent lors de l'autopsie, qui ne savait pas disséquer, mais qui a tout noté de ce qui se passait, et qui conclut également un cancer gastrique, alors même si ça diffère un petit peu pour l'aspect des ganglions. On a un gros problème avec ces rapports d'autopsie d'Antomarchi, c'est qu'il en a fait 4, qui ne sont pas toujours constants, et on sait que l'un d'entre eux est un plagiat. On a retrouvé qu'il avait lu un article quelques semaines avant la mort de l'empereur, une revue médicale qu'il avait reçue, et qu'il a recopié un chapitre entier qui racontait l'autopsie de quelqu'un qui avait un cancer de l'estomac. Donc c'est un petit peu embêtant, parce que qui dit la vérité ? Alors on essaie de croiser et d'avoir des choses, et cette lésion très étendue de plus de 10 cm et très très importante. Et des collègues américains ont repris ça et ont repris tous les gens, tous les dossiers de gens qui sont morts d'un cancer. Ils en ont repris 2000 pour calculer la taille de l'ulcère, parce que c'est souvent un ulcère qui dégénère et qui donne un cancer, par rapport à des gens qui n'ont qu'un ulcère à l'estomac. Et ils ont vu que dès qu'on passait 7 cm, c'était 90% de risque que ça soit un cancer. Et donc là, on est là, au-delà, on est à 10 cm, et c'est fortement en faveur de quelque chose qui n'est plus un ulcère de l'estomac, mais qui est un cancer. Alors on a vu tout à l'heure cette cascade d'événements qui ramène jusqu'au cancer et qu'a peut-être vécu Napoléon. Donc l'infection dans sa jeunesse, la gastrite aiguë, la gastrite chronique, et puis comme on est dans une infection sur l'ensemble de l'estomac, on va vers une atrophie, une métaplasie, et puis un cancer dans 1 à 3% des cas. Et cette cascade d'événements a été bien décrite dès les années 70, avant qu'on découvre Helicobacter pylori, par un médecin américain, Correa, qui nous décrivait que, bah oui, quand on prenait 100 personnes qui avaient une gastrite, eh ben, si on regardait au fur et à mesure de la révolution sur une dizaine d'années, il y en avait 50 qui allaient avoir une atrophie, 40 qui allaient avoir une métaplasie, 8 une dysplasie, et 1 à 3 qui allaient avoir un cancer. Ce que ne savait pas ce médecin américain, c'est que bah, pour avoir cette gastrite, il faut avoir Helicobacter, et que s'il n'y a pas Helicobacter, il n'y a pas de gastrite chronique active, et qui fait évoluer dans cette direction-là. Cette épidémiologie du cancer gastrique, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai mis la carte avec le pourcentage de personnes infectées dans les différents pays. Eh bien, on va voir que c'est un petit peu différent sur les cancers. Le cancer de l'estomac, c'est la quatrième cause de cancer. Et c'est un cancer qui est méchant. Et donc, vous voyez, qui double les autres comme cause de mort par cancer. Parce que c'est un cancer qui est dans un estomac, qui est dans un organe mou et qui ne va pas s'exprimer rapidement. Il va falloir que ça soit déjà un gros volume, genre la taille d'une orange ou d'une pamplemousse, pour que ça commence à parler, à faire mal, ou à perforer, ou à empêcher le passage des aliments, etc. Et puis c'est un cancer qui arrive chez des personnes plutôt âgées. Ça n'arrive pas avant 60, 70, 80 ans. Donc vous voyez, l'âge moyen, c'est 75 ans à peu près. Et donc c'est souvent un cancer qui ne parle pas beaucoup. Et quand ça commence à parler, ben, c'est souvent avec déjà des métastases. Et l'espérance de vie de ce cancer, on dit que l'espérance de vie à 5 ans est de 20% seulement. C'est-à-dire que quand on a découvert un cancer de l'estomac chez quelqu'un, et bien 5 ans après, quand on regarde 100 personnes, il n'y en a que 20 qui sont encore survivants. Donc ça veut dire que ce n'est pas très bon comme cancer et que ça entraîne pas mal de décès. Il y a une grande discordance entre la prévalence de l'infection et l'incidence du cancer. Je vous mets l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an pour 100 000 habitants. Vous voyez qu'en Europe, on est entre 1 et 15 pour 100 000 habitants. 1, c'est plutôt dans le nord de l'Europe, 15, c'est au Portugal, c'est là qu'on a le chiffre le plus important. Et puis vous voyez que dans des pays où il y a une très forte présence de la maladie, 80% des gens qui sont infectés, on n'est qu'à 5 pour 100 000 qui vont faire un cancer. 5 pour 100 000 là aussi. Et puis par contre, un truc qui interpelle, c'est qu'au Japon, où on était à 30% de la population, c'est un pays développé, eh bien on est à 90 pour 100 000 habitants japonais qui vont faire un cancer de l'estomac. Donc une incidence très très élevée. Et là, c'est les questions qu'on se pose à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça. C'est qu'est-ce qui se passe chez les Japonais ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont japonais, qu'ils ont une génétique particulière ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un hélicobacter particulier ? Vous avez vu tout à l'heure les migrations humaines et l'évolution des hélicobactères. Est-ce qu'ils ont un hélicobacter plus agressif ? Ou alors, est-ce que c'est l'environnement ? Alors, c'est quoi l'environnement pour une bactérie qui est dans l'estomac ? Est-ce qu'ils mangent des choses particulières ? C'est sûr qu'ils mangent des choses particulières, les Japonais. Mais est-ce que c'est ça qui compte aussi ? On verra, on discutera un petit peu de ces différentes influences et ces différents facteurs qui font que pourquoi une bactérie chez quelqu'un va donner rien du tout, c'est-à-dire une gastrite qui va être sans signe, et puis chez d'autres personnes va arriver jusqu'à un cancer. Donc on va revoir ça tous ensemble. C'est ce qu'on appelle le déterminisme pathologique. Et ce déterminisme pathologique, comme chaque fois dans une maladie infectieuse, il y a trois partenaires. Il y a l'hôte, la personne qui est infectée, il y a la bactérie, et puis il y a l'environnement. Et puis chacun de ces facteurs va interagir avec les autres. Et on va regarder chacun de ces facteurs ensemble. Quand on regarde du côté de l'hôte, on sait depuis très longtemps, même avant qu'on découvre Helicobacter pylori, qu'il y a une susceptibilité génétique à faire des cancers de l'estomac et qu'il y a des familles qui font des cancers de l'estomac et d'autres qui n'en font pas. Et donc, il y a un risque familial. S'il y a un antécédent de cancer de l'estomac dans une famille, avec une grand-mère qui déclare un cancer à 80 ans, ben ça veut dire que pour les membres de cette famille-là, le risque peut être multiplié par 20 de faire un cancer par rapport à la population générale. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Et on a découvert récemment qu'il y avait des mutations dans certains gènes qui pouvaient peut-être expliquer ça. Et c'est des mutations qui ont lieu dans des gènes qui s'appellent l'interleukine 1-bêta, le récepteur antagoniste de l'interleukine, etc. Les interleukines, ce sont des médiateurs de l'inflammation. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, quand il y a Helicobacter, ça entraîne de l'inflammation. Eh bien, ça va peut-être entraîner chez certaines personnes qui ont des gènes particuliers pour ces interleukines, une réaction inflammatoire trop forte qui va faire que ça va évoluer vers un cancer, alors que d'autres réagiront moins parce qu'ils n'ont pas les gènes pour réagir trop fort. Donc, c'est une des hypothèses. Et là, du coup, on va revenir à Napoléon. Je vais vous le mettre un peu plus grand. Donc, vous reconnaissez ce tableau qui est au Louvre. Hein, c'est le sacre de l'empereur. Alors, ce n'est pas le sacre de l'empereur, hein, c'est le sacre de Joséphine de Beauharnais, parce que l'empereur s'est déjà couronné lui-même. Et on est à Notre-Dame de Paris, on est en 1804, et Napoléon a décidé de faire un grand coup médiatique et de se proclamer empereur. Il s'est payé le pape, donc Pie VII est là, il l'a fait venir, et puis pour montrer que c'était lui le chef et que c'était lui qui payait tout, ben c'est lui qui s'est couronné et c'est lui qui couronne sa femme, alors que normalement ça aurait dû être le pape. Et on a sur ce tableau quelque chose qui est très intéressant sur le plan de cette maladie Helicobacter pylori et ce cancer de l'estomac, c'est qu'on a toute la famille de Napoléon, et on va s'apercevoir que dans cette famille de Napoléon, on a été très fortement touché par le cancer de l'estomac. Je vous disais qu'il y avait des familles à cancer de l'estomac. Et ben là, dans cette famille, ben on a ces trois sœurs qui sont là, qui font les demoiselles d'honneur. On a son frère qui est là, un de ses frères. On a sa mère qui est là. Alors, sa mère n'était pas là ce jour-là. Elle faisait la gueule, il s'était engueulé la veille. Mais il avait dit à David, tu mets ma mère, parce que ça va faire des histoires. Donc, tu la mets. Mais à côté de sa mère, ben, il n'y a personne, parce que son père est vraisemblablement mort d'un cancer de l'estomac des années auparavant, et puis son grand-père, qui n'est pas là non plus, est lui aussi vraisemblablement mort d'un cancer de l'estomac. Alors il y a plein d'autres gens célèbres, hein, il y a des représentants de la grande porte, des Turcs, etc. Quoi. Il y a vraiment du beau monde, il fallait faire un beau casting. Et quand on reprend ce facteur de risque génétique dans la famille de Napoléon, on reprend son arbre généalogique avec Napoléon qui est ici. Il avait un frère aîné, et puis vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frères et sœurs. Hein, vous vous rappelez tout à l'heure le facteur de risque d'avoir une grande fratrie pour transmettre cette bactérie-là. Et bien, dans cette grande fratrie, on a lui qui est vraisemblablement mort d'un cancer de l'estomac, et puis on en a son frère Lucien, sa sœur Elisa, sa sœur Pauline, sa petite sœur Caroline, qui sont avec, on va le voir juste après des descriptions, certains sont morts, ils avaient mal à l'estomac, d'autres ont été même autopsiés. On n'a pas d'anatomopathologie pour nous prouver que c'était un cancer, mais quand même, on a pas mal de choses. On a son père, on a son grand-père. Donc, si on reprend par le haut, ben, son grand-père, Joseph, serait mort d'un cancer de l'estomac, mais il n'y a pas eu d'autopsie. Son père, Charles, est décédé après 2 années de vomissements, de douleurs de l'estomac et d'une perte de poids. Il avait été autopsié à Montpellier par le docteur Bousquet. On a le rapport d'autopsie qui montre une tumeur indurée de la taille d'une pomme de terre localisée à la grande courbure et qui conclut un cancer de l'estomac. Lucien, qui est ici, son deuxième frère, est mort à 65 ans, se plaignant de douleurs de l'estomac. Un cancer de la gastrique fut suspecté. Sa sœur Elisa est morte à 43 ans, hein, c'est super jeune, d'un cancer, de quelque chose qui ressemble à un cancer de l'estomac. Pauline, deuxième sœur, se plaignait de douleurs gastriques, elle est décédée à 44 ans. Caroline, la plus petite sœur, est décédée à 56 ans. 2 lésions ont été découvertes à l'autopsie, une à l'estomac et une au côlon. Et son médecin, le docteur Pleffer, concluait un cancer gastrique. Donc vous voyez, on n'a pas d'argument formel parce qu'on n'a pas les anapathes de ces trucs-là, mais on a quand même une famille qui représente un petit peu ce facteur de risque familial, même très, très, très fort, parce que c'est quand même assez exceptionnel d'avoir autant de membres, 7 membres au premier ou au second degré, 5 d'une fratrie de 8, et on a 3 rapports d'autopsie pour étayer ça. On revient à mon histoire d'Helicobacter. On a vu les facteurs liés à l'hôte. Maintenant, on va regarder les facteurs qui sont liés à l'environnement, et ce sont des facteurs nutritionnels. Et on sait que de manger des aliments fumés, salés, du poisson séché, de fumer, ce sont des facteurs de risque. Et vous vous rappelez, alors j'ai mis une image du sud-est asiatique avec, ben évidemment, on repense aux Japonais qui mangent beaucoup d'aliments salés, d'aliments fumés, de poissons séchés. Et puis, vous vous rappelez, en Europe, tout à l'heure, je vous ai dit, là où il y avait la plus forte incidence de cancer dans l'Europe, le Portugal, et du coup, hein, la morue, hein, le plat traditionnel que mange toute famille d'origine portugaise le dimanche, ben, c'est peut-être aussi un facteur de risque. Et puis, de l'autre côté, ben, on a des facteurs protecteurs. Les fruits et les légumes frais, vous avez tous entendu ces campagnes, il faut manger des fruits et des légumes frais, ça protège de pas mal de choses, ça protège de cancer, dont le cancer de l'estomac. Et puis la consommation de thé ou de vin, là c'est deux types de civilisations qui s'opposent un petit peu, les deux contiennent des polyphénols et les deux auraient des actions anti-infectieuses directement sur Helicobacter pylori, et puis peut-être aussi anti-inflammatoires, sur les deux qui pourraient expliquer ça, ce côté protecteur. Et donc, si on reprend l'avis de Napoléon, ben, l'avis de Napoléon n'a pas été une sinécure gastronomique. Hein, il était tout le temps sur le champ de bataille avec des aliments séchés, avec des aliments fumés, qui étaient les moyens de conservation de l'époque. Donc, une alimentation avec des facteurs de risque alimentaire qui étaient certainement très élevés. J'ai pas trouvé une notion de savoir si Napoléon fumait. J'ai pas retrouvé ça, mais bon, donc ça. Est-ce qu'il chiquait ou est-ce qu'il fumait? Je ne sais pas très bien. Et puis, dernier partenaire de ce truc à trois avec l'hôte, l'environnement, et bien c'est la bactérie. Et bien la bactérie a des facteurs de virulence qui font que certaines de ces bactéries sont plus méchantes que d'autres. Donc toutes ces bactéries, tous ces Helicobacter pylori sont capables de se mettre dans l'estomac et d'y s'y accrocher. Elles ont une capacité à résister à l'acidité de l'estomac en fabriquant une enzyme qui s'appelle l'uréase, qui va permettre de tamponner un petit peu l'acidité gastrique et de vivre dans le mucus, dans une zone à peu près neutre où elle va pouvoir se multiplier. Et puis elle a aussi des petites molécules d'adhésine qui vont lui permettre de s'accrocher aux cellules épithéliales et donc de se coller à la paroi et de ne pas partir dans la digestion comme ça. Et puis il va falloir qu'elle persiste puisqu'on attrape ça quand on a 1 an, 2 ans et puis c'est à 70 ans qu'on fait le cancer. Donc elle va nous accompagner toute la vie et il va falloir qu'elle persiste dans l'estomac. Et puis certaines de ces bactéries, et certaines seulement, vont être capables d'être plus agressives que les autres et d'entraîner des lésions et d'entraîner de la carcinogénèse, c'est-à-dire d'aider à évoluer vers le cancer. Et donc je vais vous parler d'un de ces facteurs de virulence qui est très très intéressant, qui s'appelle l'îlot de pathogénicité CAG. CAG, c'est parce que ça s'appelle Cytotoxin Associated Gene, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc quand on regarde le chromosome d'un Helicobacter pylori, c'est un petit chromosome, on parle de 2,7 millions de bases, et puis chez certaines de ces bactéries-là, il va se mettre dans ce chromosome-là un espèce d'îlot, un îlot génétique qui fait 40 kilobases, mais ça correspond à peu près une trentaine de gènes qui viennent se mettre là en plus de tout ce qu'il y a sur le chromosome habituel d'un Helicobacter pylori. C'est assez étrange parce que la composition en base de ce petit fragment n'est pas du tout la même que celle du reste. Ça veut nous dire que ça vient d'autre chose, d'une autre bactérie, de quelque chose d'autre, qu'on n'a pas encore découvert, mais quand les Helicobacter, par exemple, africains, ils n'ont pas cet îlot CAG. Et vraisemblablement, cet îlot CAG a été acquis après la sortie d'Afrique. Vous vous rappelez les flèches qu'on avait tout à l'heure. Et donc, les Africains, vous rappelez aussi les chiffres, ils sont hyper infectés par hélico. Par contre, il y a très peu de cancers. Et bien, c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas ce truc-là et que ce truc-là a été acquis peut-être au Moyen-Orient ou en Asie, on ne sait pas encore. Mais c'est venu d'une autre bactérie qu'on ne connaît pas, qui n'existe peut-être plus, qui a peut-être disparu ou qu'on n'a pas encore découvert. Donc on a cet îlot-là qui va coder pour pas mal de choses. Et sur cet îlot, il y a un petit gène qui code pour une protéine qui s'appelle CAGA, qui est un antigène dominant, un marqueur de virulence. C'est-à-dire que quand vous êtes infecté par une souche qui a ce petit îlot avec ce gène qui code pour la protéine, vous avez dans votre sérum des anticorps contre cette protéine. Et c'est assez facile d'aller les chercher. Et on s'aperçoit que tous les gens qui ont un cancer, ils ont des anticorps contre CAGA, en plus des anticorps contre Helicobacter pylori. Et donc c'est un facteur, c'est un marqueur de virulence assez facile. En allant chercher ça, on peut savoir si la personne a été infectée par une souche qui est plus méchante et qui va pouvoir entraîner le cancer. Alors on va voir comment ça peut entraîner le cancer. Qu'est-ce que c'est cet îlot, ces 30 gènes? Ben, c'est une trentaine de gènes avec ce petit gène au bout là, qui s'appelle le gène CAGA, qui code pour cette protéine CAGA. Et on va voir comment ça marche, c'est un truc assez extraordinaire. Tout cet îlot va coder pour la fabrication d'une espèce de seringue moléculaire. On est là avec Helicobacter, on est là avec la cellule de l'estomac. Et là, vous voyez, ça code pour un espèce de truc. C'est vraiment comme une seringue. Et ça va permettre d'injecter dans la cellule humaine la protéine Kaga. Et on a des très belles images faites par des collègues allemands où on voit Helicobacter pylori avec sa forme particulière, avec son petit flagelle qui est ici. Puis vous voyez ces espèces de spicules qui sont là. On grossit, puis on voit ces spicules-là. Et puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont marqué les protéines Kaga avec des particules d'or, ce qui fait qu'on les voit là, tous les petits trucs qui brillent, la neige là, c'est des protéines Kaga qui sont en train de passer de l'intérieur de la bactérie où elle est fabriquée, vous voyez c'est brillant ici, dans la cellule épithéliale gastrique qui est ici. Donc là on a l'image d'une bactérie qui est en train d'injecter une protéine bactérienne dans la cellule épithéliale avec, grâce à toute cette machinerie qui est codée par tous les gènes qui sont ici. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et bien, une fois qu'elle rentre dans l'estomac, dans la cellule de l'estomac, et bien c'est extraordinaire parce qu'elle va piéger la machinerie humaine, elle va être reconnue par des protéines humaines qui n'ont rien à voir avec des protéines bactériennes, mais qui vont faire une espèce de cascade d'événements qui font qu'on aboutit à une espèce d'activation qui va vers le cancer. Et on retrouve exactement la même activation quand on a, par exemple, le papillomavirus qui donne le cancer du col de l'utérus, c'est exactement le même truc. Donc ça veut dire que cette bactérie qui vit avec nous depuis le début de l'humanité, elle a réussi à détourner notre machinerie cellulaire pour faire aboutir à quelque chose qui fait naître le cancer. Hein, c'est assez une intimité très très forte qui montre que la bactérie arrive à s'immiscer dans notre machinerie à nous. Donc on revient à Napoléon. Qui a tué Napoléon? Helicobacter pylori, la bactérie qui donne le cancer. Donc on a des arguments cliniques, hein, vous vous rappelez, Napoléon qui a mal à l'estomac, qui saigne et qui vomit du sang quelques jours avant de mourir, qui a une diarrhée avec du sang digéré. On a des arguments autopsiques avec une lésion qui est très très importante, qui fait 10 cm, qui fait fortement penser à un cancer. On a des arguments épidémiologiques. Déjà, à l'époque, tout le monde était infecté, donc il avait obligatoirement Helicobacter pylori. Des facteurs liés à l'hôte, avec cette susceptibilité familiale, on a vu toute cette famille largement touchée par le cancer de l'estomac. Des facteurs de risque alimentaire, avec une alimentation très en faveur de l'évolution vers le cancer. Et puis, par contre, on n'a pas les facteurs de virulence bactérienne, parce qu'on n'a pas la bactérie de Napoléon, pour savoir si elle a cette héliocague qui permettrait d'évoluer vers le cancer de l'estomac. On a une localisation de l'infection et des lésions qui est très en faveur. Donc, qu'est-ce qui nous manque pour dire que Napoléon est vraiment mort d'un cancer de l'estomac dû à Helicobacter pylori? C'est une confirmation histologique, hein, ce que faisait Warren dans son laboratoire dans les années 80, c'est regarder une biopsie de l'estomac de Napoléon et dire, oui, il y a des cellules cancéreuses, et donc il y a un adénocarcinome. Et puis, c'est d'essayer d'avoir la bactérie qui était là et de montrer que cette Helicobacter pylori chez Napoléon avait cette héliocague qui permettait l'injection et l'évolution vers le cancer. Donc il faudrait pouvoir analyser l'estomac de Napoléon et ça serait vraiment super intéressant, mais vous allez voir qu'on se dit c'est foutu, peut-être pas, vous allez voir, c'est la fin de mon topo où on a peut-être une possibilité. Alors comment est-ce qu'on diagnostique chez quelqu'un qui va bien et qui n'est pas mort depuis 200 ans Helicobacter pylori? On a plein de méthodes. On peut aller faire une fibroscopie, on appelle ça une méthode invasive, et puis aller voir si cette bactérie est capable de... Vous rappelez tout à l'heure, elle a cette enzyme, cette uréase qui permet de tamponner l'acidité gastrique. On peut faire l'anapath comme faisait Warren, c'est-à-dire regarder les tissus, regarder les glandes et voir si on voit des petits bâtonnets, des petites bactéries à l'intérieur. On peut faire de la culture de la bactérie, hein, comme avait fait Barry Marshall avec ses géloses, où il fallait attendre un peu plus que 48 heures pour que ça commence à pousser. Maintenant, on peut aller chercher les gènes de la bactérie par des systèmes de PCR, d'amplification génique qui vont directement chercher les gènes. Et puis, on peut faire des techniques non invasives. Donc, on n'a pas besoin de faire une fibroscopie. On peut faire un test respiratoire. Là, je travaille beaucoup avec la Tunisie, le Maroc. Là, c'est une dame qui est du sud tunisien avec son habit traditionnel et qui est en train de souffler dans le ballon. Et en fait, on lui a fait boire de l'urée marquée avec du carbone 13. Et puis, on laisse blobloter ça dans son estomac. Si elle a un hélicobactère, il y a de l'uréase qui va dégrader l'urée en ammoniac et en CO2 marqué au carbone 13, et dans son air expiré, on va retrouver du carbone 13, qu'on va pouvoir mesurer avec un appareil derrière qui est très très simple, qu'on peut avoir dans n'importe quel labo, et donc on voit si c'est positif, et ça veut dire qu'il y a un hélico dans l'estomac. On peut regarder dans les selles des patients s'il y a des antigènes, on peut faire dans le sang des patients, je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire des prises de sang pour faire de la sérologie. Donc vous voyez, on a toute une panoplie. Mais évidemment, chez Napoléon, on ne va pas pouvoir faire des tests non-invasifs parce que le pauvre est décédé. On n'a pas ses selles, on n'a pas son sang, on n'a pas tout ça. Donc, qu'est-ce qui va nous rester comme possibilité? Donc, il faudrait pouvoir analyser l'estomac de Napoléon. Et on a quelque chose qui est assez intéressant au point de vue éthique. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire d'expérimentation chez les gens sans qu'ils soient d'accord. Mais là, on sait que Napoléon serait d'accord pour qu'on aille explorer un peu plus qu'est-ce qui lui est arrivé. On a des textes qui ont été écrits juste avant son décès, et il écrivait à son médecin « Rappelez-vous ce que je vous ai chargé de faire lorsque je ne serai plus. Faites avec soin l'examen anatomique de mon corps, de l'estomac surtout. » Les médecins de Montpellier, qui avaient autopsié son papa, avaient annoncé que le squir au pylore serait héréditaire dans ma famille. Leur rapport est, je crois, dans les mains de Louis. Demandez-le, comparez-le avec ce que vous aurez observé vous-même. Que je sauve au moins mon fils de cette cruelle maladie, vous le verrez, docteur, vous lui indiquerez ce qu'il convient de faire, etc. etc. Donc on a le patient qui nous dit, je donne mon accord pour qu'on aille un petit peu plus loin. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que l'estomac de Napoléon a été conservé. Quand on lit le rapport d'autopsie de Antomarchi, qu'il avait découpé, il écrit, j'avais terminé cette triste opération, je détachais le cœur. Alors il nous décrit le cœur de l'empereur, quelque chose d'extraordinaire, un cœur de battant, de dragon, de lion, etc. Bon. Je détachais le cœur, l'estomac, et l'ai mis dans un vase d'argent rempli d'esprit de vin. D'esprit de vin, c'est de l'alcool. Je laissais le premier de ses organes, c'est-à-dire le cœur, dans le vase qu'il avait d'abord reçu, et je mis le second dans un autre de même métal, donc en argent, de forme cylindrique, il faisait des grosses fautes d'orthographe, qui servait à serrer l'éponge de Napoléon. Serrer l'éponge, c'est que quand il était sur le champ de bataille, son éponge pour s'essuyer, pour se laver, il la mettait dans ce récipient en argent, et puis il la serrait, et puis il fermait le truc comme ça, hermétique. C'était un moyen de garder son éponge à peu près propre. Et les déposer l'un et l'autre aux angles du cercueil. Ça veut dire que quand il a été autopsié, ben, l'estomac a été mis dans de l'alcool, dans un récipient qui a été scellé, et qui a été posé dans le cercueil de l'empereur. Et vous savez que presque 20 ans après sa mort, un peu moins de 20 ans, Napoléon III a fait un coup de com' en allant chercher les cendres de Napoléon pour les ramener en France. Et vous savez où c'est en France ? Aux Invalides. Hein. Donc ça a été un gros coup de com' pour dire, moi je suis un empereur, peut-être un peu moins bien que mon ancêtre Napoléon, mais je vais le ramener, comme ça donnera du crédit à mon empire, à moi. Et donc il envoie des militaires, vous voyez, il y a le clergé, tout le monde est représenté, pour aller chercher Napoléon qui avait été enterré à Sainte-Hélène. Et bien donc ils vont faire l'exhumation de Napoléon, ils vont ouvrir son cercueil, etc. Et alors il y a des descriptions complètement délirantes, l'empereur est toujours aussi beau, toujours aussi majestueux. Bon, c'était un Maccabée de 20 ans, donc c'était un petit peu quand même. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez même sur cette gravure, et bien qu'est-ce qu'on voit là ? On voit les petits vases d'argent qui sont là entre les bottes de l'empereur et qui sont toujours présentes. Et on sait qu'ils ont ouvert, ils s'étaient dit on va refaire une autopsie, on va voir un petit peu. Et puis le général qui était là, le général Bougot, je ne sais plus comment il s'appelle, a dit non, on ne touche pas à l'empereur, on referme. Ils ont refermé tout de suite le cercueil et tout était dedans. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après ? Bien, après ça a été le retour des cendres avec... sur l'île de Sainte-Hélène, des bataillons de marine qui ramènent le cercueil de l'empereur sur un espèce de bateau avec un catafalque, qui ramène ça sur la Belle Poule, qui vient jusqu'au Havre. Au Havre, on passe sur un autre bateau qui remonte la Seine, qui va jusqu'au pont devant les Invalides, le pont Alexandre III. Et puis là, on monte sur un espèce de char qui pourrait ne pas dépareiller à la Gay Pride, hein, où on met le cercueil de l'empereur et puis on va faire quelques mètres jusqu'aux Invalides. Et puis, eh bien, l'estomac est aux Invalides, hein. Donc les Invalides avec ces sept couches superposées. Il y a le cercueil de Napoléon, un truc plombé, un autre en bois d'ébène, etc. Et on arrive jusqu'à, je ne sais plus ce que c'est comme pierre, mais c'est des trucs assez extraordinaires, un petit peu d'inspiration pharaonique. Hein. Et donc, le Napoléon est toujours là, il est aux Invalides, et puis entre ses jambes, il y a ce pot en argent avec son estomac. Et donc, j'ai écrit une proposition d'étude que j'ai envoyée aux généraux, à plusieurs généraux à Paris, pour leur proposer de récupérer juste ce vase, d'entrouvrir le cercueil et de récupérer ce vase pour pouvoir faire une étude histologique et puis d'aller voir, parce que dans quelque chose qui est conservé dans l'alcool, pour nous qui faisons de la microbiologie moléculaire, qui allons chercher les gènes, c'est extraordinaire parce que c'est le meilleur moyen de conserver du tissu et conserver des gènes de bactéries, et donc on pourrait extraire l'ADN, faire des PCR, faire du séquençage, etc., et aller voir si on peut trouver l'ADN d'hélicobactères, et même voir si on peut trouver le gène Kaga, dont on parlait tout à l'heure, pour montrer que la bactérie était plus agressive. Donc j'ai envoyé un plan, ça c'est un estomac actuel, hein, et puis avec la lésion qui a été décrite, et puis les biopsies là où je voudrais les faire, etc. Et donc, voilà, j'ai terminé là-dessus. Et puis, de vous demander si vous avez des appuis dans l'armée. J'ai besoin d'un sérieux coup de pouce pour pouvoir entrouvrir le cercueil de Napoléon. J'ai eu une réponse la semaine dernière par le général qui est en charge du musée de l'armée aux Invalides, qui me disait que qui me souhaitait bonne chance, mais que ça serait assez compliqué parce qu'il faudrait, comme toute exhumation, avoir l'accord de l'ensemble de la descendance de Napoléon, plus celle du président de la République, parce que c'était quand même un trésor national. Mais bon, j'attends vos appuis pour relancer cette demande. Et sinon, je suis prêt à répondre à vos questions.
Merci beaucoup, Christophe. Et puis, donc, si vous voulez des compléments d'information, si vous avez encore des questions, voilà, aussi bien sur l'aspect biologique que sur l'aspect historique.
Je ne suis pas un grand expert de Napoléon. Hein. Vous avez vu le dernier expert et mal fini la semaine dernière en tuant sa compagne, en la dépeçant, en la mettant dans son sac à dos et en voulant suicider en habillant en grand général de l'Empire. C'était assez triste.
Pas de...
Oui.
Vous disiez que, en fait, la contamination se fait par la mère.
On sait que c'est la maman ou les frères et sœurs, parce que quand on fait des profils génétiques, on voit très bien si on a la souche de la maman, la souche des frères et sœurs, ben qu'on a la souche de sa maman ou de ses frères et sœurs ou de sa nounou, parce que on vit pas toujours avec sa maman dans les premières années de sa vie. Ça dépend comment on est éduqué, mais oui, on retrouve très facilement ce profil génétique qui nous dit c'est familial et c'est la maman qui transmet la plupart du temps. Alors, on ne sait pas très bien. On dit c'est soit oro-oral, c'est-à-dire ça passerait par le haut, soit féco-oral. On sait que quand on fait des suivis de famille, c'est quand il y a des épisodes de gastro-entérite familiale que ça se transmet. Que le petit dernier va l'attraper. Mais les épisodes de gastro-entérite, tout le monde vomit, tout le monde a la diarrhée, donc par quel côté ça passe, on ne sait pas très bien. Quand on fait des modèles avec des souris, on arrive très facilement à infecter des souris, à mettre une cage de souris infectée au-dessus d'une cage de souris non infectée, les crottes tombent et celles d'en bas s'infectent. Mais bon, c'est des souris, ce n'est pas pareil. Par contre, un adulte ne peut pas s'infecter. Les seuls trucs qu'on a vus d'infection d'adulte, c'est soit en bois de l'hélico, comme avait fait Barry Marshall. Alors, ça arrivait des fois accidentellement dans les laboratoires avec des techniciens qui pipetaient. Alors maintenant, on pipette plus à la bouche, donc c'est interdit, donc ça n'arrive plus. Ou alors, au début de la fibroscopie, quand on ne désinfectait pas les fibroscopes et qu'on passait d'un malade infecté à toute une série d'autres, et bien on infectait toute la série qui était derrière. Donc maintenant, c'est pour des raisons... Autre que hélico, pour des raisons d'hépatite et tout ça, c'est extrêmement surveillé, extrêmement codifié. La désinfection des fibroscopes, on ne peut plus attraper de grand-chose avec les fibroscopes actuellement. Et puis ce que je vous disais, des adultes ne peuvent pas se leur filer entre eux, des couples, même avec des relations très intimes, ne transmettent pas. Après, on a des choses où les dentistes sont plus à même d'être infectés par hélico. Est-ce que c'est parce qu'ils tripatouillent dans la bouche des gens toute la journée? Peut-être, je ne sais pas.
Moi, sur la méthode qu'on utilise pour les soigner, ça.
Ouais.
Au début, j'ai cru comprendre que c'était relativement facile par je ne sais plus quel moyen. Et après, ça finit par des trithérapies.
Ouais.
Là, j'ai pas bien
donc,
suivi.
Dès le début, on s'est aperçu qu'un seul antibiotique, ça marchait pas, et qu'il fallait absolument que l'estomac soit neutre pour que les antibiotiques marchent, parce que les antibiotiques sont débobinés par l'acidité. Donc, on met déjà un inhibiteur de la pompe à protons pour faire un pH neutre, et après on met des antibiotiques, et un seul marche à 60%, et deux marchent à 95%. Sauf qu'au début c'était comme ça, avec deux plus un IPP c'était très bien, on était à 95% de réussite, c'était assez acceptable, et puis on a développé des résistances, ce qui fait qu'un des deux antibiotiques ne marche plus, et qu'on redescend à 60%. Et donc à un moment, jusqu'à il y a 5-6 ans, les gastro-entérologues proposaient de mettre 3-4 antibiotiques. Là, moi je travaille sur le microbiote aussi, le microbiote prend un sacré coup quand on prend 4 antibiotiques comme ça pendant 14 jours. Et donc maintenant, on en revient à une stratégie qui est celle qu'on devrait employer sur la plupart des infections. C'est on va faire l'antibiogramme, on va savoir à quoi c'est sensible et à quoi c'est résistant. Et là, on traite avec ce qui marche. Alors c'est sûr que ça coûte plus cher, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais finalement, on a même montré que dans des modèles économiques que c'était moins cher que d'aller n'importe comment et d'avoir des échecs et de recommencer, etc. Donc maintenant, on appelle ce qu'on fait du traitement orienté sur les résultats d'une PCR ou d'une culture et qui nous donne la sensibilité de la bactérie.
D'animal, on a montré aussi d'autres liens entre d'autres espèces d'hélicobactères et puis le développement d'ulcères et de cancers derrière ou...
Alors, on n'a pas beaucoup de modèles animaux pour reproduire la maladie. Vous avez vu, Barry Marshall avait dû avaler pour les, parce que on peut infecter des souris, mais elles ne vont rien faire, juste une gastrite. Chez les singes, on arrive, en mettant l'hélico de l'homme, à entraîner un ulcère, mais pas de cancer. Pour entraîner un cancer, on n'a que les gerbilles. Vous voyez ce que c'est, ces petits rongeurs très mignonnes, là, avec des grandes pattes à l'arrière. Et bien, elles, quand on leur met un hélicobactère humain dans l'estomac, on arrive en quelques semaines à avoir la cascade d'événements que je vous montrais tout à l'heure. Et donc, ça nous a permis de prouver que l'ilocag était indispensable pour entraîner le cancer, que quand on bousillait le gène de cet ilocag, on n'entraînait pas de cancer chez la gerbille. Donc, c'est un lien très, très fort, et ça montre que ce facteur de virulence est très, très important. Chez le cochon, ça ne donne pas d'ulcère. Par contre, les animaux, on parlait du guépard tout à l'heure, les guépards en captivité, alors les guépards dans la liberté, on ne sait pas très bien quelle est leur vie, mais les guépards en captivité, quand ils sont infectés par un hélicobactère Acinonychus, vont pouvoir faire des gastrites hémorragiques, qui ne sont pas tout à fait des ulcères, mais pas loin.
L'hélicobactère, ça se cultive facilement en laboratoire ? Parce que l'estomac, c'est particulier quand même.
Alors non, on récupère des biopsies, on les broie et on les met sur exactement comme avait fait Barry Marshall. On les met sur des gélos au sang, on les met avec des atmosphères où il y a très peu d'oxygène, mais encore un petit peu. Et on arrive à 4, 5, 6, 7 jours à avoir des petites colonies qui commencent à pousser. Et ce n'est pas facile parce qu'on les perd facilement, on n'arrive pas à avoir des subcultures facilement. Mes techniciennes disent que c'est une bête à chagrin, quoi. Autant un Escherichia coli, un Staphylococcus aureus, c'est rien du tout à faire pousser, autant ça, c'est assez compliqué. Et en France, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui sont capables de faire la culture jusqu'au bout, avoir l'antibiogramme, etc. On doit être une vingtaine en France seulement à savoir le faire.
Et c'est sur des milieux très acides, alors, du coup ?
Non, on n'a pas besoin de cette acidité, puisque la bactérie lutte contre l'acidité dans l'estomac. Et donc, on a des milieux neutres et ça marche très bien. Non. Il y a des études épidémiologiques qui montrent qu'il y a peut-être un lien avec la qualité de l'eau, de distribution de l'eau. J'ai travaillé là-dessus un petit peu. Quand il est dans l'estomac, il a cette forme hélicoïdale très belle et tout ça qu'on voit bien au microscope. Et puis, évidemment, il passe dans la digestion. Il y en a un petit peu qui passe dans la digestion. Et là, il devient ce qu'on appelle tout rond, sous forme cocoïde. Et cette forme cocoïde, il y a encore un peu de vie dedans. Mais pas mal de collègues disent « mais non, c'est une forme de dégénérescence, de mort ». Mais peut-être que ça arriverait jusqu'au sel et ça pourrait contaminer. Quand il y a des villages où il y a de l'eau au puits seulement ou en citerne, on a plus de transmission d'hélicobactères que des villages où il y a l'eau du robinet. Et donc, on se dit « est-ce que ce n'est pas un moyen de transport à partir des sels ou d'aliments contaminés par les sels ou d'eau contaminée par les sels ? Est-ce que ça pourrait être une hypothèse ? Mais on n'a jamais réussi à le prouver. Ces bactéries sous forme ronde, on peut les mettre sur les boîtes, elles ne repartent jamais. Alors peut-être j'ai même essayé de les mettre dans les estomacs de souris, ça ne repart pas. Il faudrait faire l'expérience de le mettre dans l'estomac humain, mais là, éthiquement, je ne peux pas mettre une bactérie qui donne le cancer dans l'estomac de volontaire sain. Je n'aurai jamais l'accord d'un comité d'éthique. Je ne vais pas demander des volontaires.
Questions qui sont liées un peu. Tu nous as parlé de la protéine CAG1 là, qui est au tout début de la cascade. Il y a des pistes thérapeutiques pour, je sais pas, essayer de bloquer l'effet de cette protéine.
Alors, il y a eu plein d'hypothèses avec cette histoire-là. On pourrait se dire, pour éradiquer cette infection et ce risque de cancer, on pourrait se dire, on va prendre les gens, leur faire les polymorphismes génétiques là, pour savoir si leurs interleukines sont codées par des gènes à risque, leur faire une étude alimentaire, savoir ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils sont portugais et qu'ils mangent de la morue le week-end, des choses comme ça, et puis prendre leurs bactéries et regarder s'il y a l'ilocag. Et là, n'enlever l'infection que chez ceux-là qui sont le plus à risque. C'est un truc de riche, là. Donc là, maintenant, on a décidé, pour lutter contre le cancer de l'estomac, de s'intéresser aux familles. Quand il y a une personne dans une famille, une personne en général âgée, qui déclare un cancer de l'estomac, et bien là, tous les membres au premier et au deuxième degré, on leur propose de faire une recherche d'hélicobactères pylori, et s'ils sont porteurs, et bien de les traiter avant qu'ils ne déclenchent un cancer quand ils seront plus vieux. Et c'est l'axe qu'on s'est donné au niveau de la santé publique pour essayer de bloquer cette chaîne. Parce que c'est un cancer, c'est trop bête, quoi. On traiterait la personne à 40 ans, elle ne ferait pas de cancer à 70. Donc c'est un cancer qu'on pourrait éviter par un traitement antibiotique de 10 jours, quoi. C'est vraiment facile de lutter contre. Donc il faut vraiment intervenir sur ces familles, qui est un espèce de conseil, un peu comme il y a le cancer du côlon. On dit, ben, faites-vous votre coloscopie à partir de 50 ans quand votre maman est morte d'un cancer du côlon. Ben là, c'est un peu pareil. Votre grand-mère est morte d'un cancer de l'estomac. Ben, ça vaut le coup de regarder ses frères et sœurs et ses enfants et de regarder s'ils ne sont pas infectés. Et là, d'enlever l'infection facilement avec un traitement assez court.
Et tu nous as parlé des effets bénéfiques du thé et du vin.
Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a des études sur la consommation de vin, j'imagine?
Alors, il y a des études sur la consommation de vin qui montrent que les gens qui boivent, et qui boivent plutôt du vin, ont moins d'hélicos dans l'estomac que les autres. Donc, peut-être que le vin arriverait à débarrasser les gens de leurs hélicobactères. Ça a été fait au début dans des services où il y avait des gens avec des cirrhoses alcooliques qui buvaient énormément. Et ils se sont aperçus que ceux qui buvaient de l'alcool fort, des trucs comme ça, avaient encore de l'hélico. Et ceux qui buvaient que du vin, eh ben, avaient moins d'hélico que les autres. Après, il y a eu des études qui ont montré que le vin avait une activité directement contre Helicobacter pylori spécifique. Le vin tue hélico très très rapidement, en 20 minutes. Moi, c'est des manips que j'avais fait aussi avec des souris à qui j'avais fait boire du vin. J'avais infecté, puis j'avais fait boire du vin. Eh ben, on montre qu'on a une diminution très forte de la concentration de bactéries dans l'estomac de ces souris-là, avec une semaine de consommation de vin.
Mais de consommation excessive, ça représenterait des grosses consommations de vin. Alors, à l'échelle humaine.
Consommation excessive, c'est compliqué, parce que monter un modèle comme ça... Alors déjà, c'est un modèle que j'ai monté avec un... J'ai fait une demande au comité d'éthique, hein, je ne fais pas ça dans mon petit coin avec mes petites souris. Elles buvaient, elles avaient le choix, ce qu'elles buvaient, c'était que du vin. Et j'avais montré dans mon étude que l'activité, les vins qui avaient le plus d'activité, c'était des vins du type Madiran, qui sont des vins du sud-ouest de la France et qui avaient des très fortes activités bactéricides. Et du coup, j'ai fait boire à ces souris pendant 15 jours du vin de Madiran, des bonnes bouteilles de Château Montus, des bouteilles qui sont à 30 euros à peu près. Et alors, c'est compliqué de faire boire des souris parce qu'elles ont des espèces de petites de biberons là, pour faire boire de l'eau, mais la densité du vin, c'est plus léger que l'eau. Donc, quand je mettais du vin là-dedans, ça coulait partout. Donc, il a fallu que je tape un peu mon marteau pour refermer le truc, pour qu'elles, donc quand elles allaient boire au biberon, elles avaient que de l'eau et que du vin, et je vérifiais que leur sel était bien couleur bordeaux, quoi, couleur madiran, on va dire. C'était la preuve qu'elles avaient bien bu du vin, mais elles buvaient pas excessivement. Par contre, j'avais fait une autre manip avant où j'imbibais du pain avec du vin, parce que je m'étais dit comme ça elles vont en prendre. Alors là, elles bouffaient tout, elles dormaient tout le temps. Là, je pense que c'était de la consommation excessive. Mais après, les autres avaient des comportements tout à fait normaux de souris dans une cage.
Elles sont mortes d'autre chose, alors.
Bah, après, c'est moi qui les ai disséquées pour voir ce qui restait dans les estomacs. Mais, donc, il y a une activité forte du vin, et particulièrement de ces cépages de tanate qu'on a dans ce vin de Madiran sur hélicobactères. Et donc, confirmé par des études épidémiologiques où on montre que les adultes qui prennent régulièrement du vin... ont moins d'hélico que les autres. Alors, sortez pas en vous ruant sur votre bouteille de tanate ce soir. Hein, l'alcool tue peut-être plus que l'hélicobactère encore. Donc, oui.
Attendez, je vais venir avec vous.
C'est pas tellement qu'on s'entend mal, mais c'est enregistré.
Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que la bactérie ne se transmet pas par le père, donc par la mère ou la nourrice. Mais
ça, c'est culturel, c'est parce que les papas ne s'occupent pas des bébés.
Oui, d'accord.
C'est mais tout. Mais moi qui m'occupe beaucoup de ma fille, je pense que c'est peut-être moi qui lui ai transmis. Oui.
Mais du coup, son grand-père et son père avaient eu un cancer, et ses frères et sœurs aussi. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que sa mère avait la bactérie, ou est-ce que
c'est, ben certainement, oui.
D'accord.
Oui, oui. Quoi. Dans cette famille, il devait... C'est ce que je disais tout à l'heure. À l'époque, tout le monde devait être infecté. Alors, est-ce que les Bonaparte avaient une souche CAC+ ? Ben, ce que je voudrais réussir à prouver, mais je n'y arriverai jamais. Hein. J'envoie des lettres à des généraux, mais certains ne me répondent pas, et puis les autres me disent « vous n'avez aucune chance ». Donc bon, on verra.
Merci.
Oui, donc je voudrais redemander par rapport au thé, en plus du vin, dans quelle mesure le thé agit, le thé vert ou le thé noir ou autre. Et une autre question, si je la pose tout de suite.
Oui, bien sûr.
Et la deuxième, c'est par rapport aux méthodes de diagnostic intrusives ou non intrusives. Est-ce qu'elles sont équivalentes en résultats, en fiabilité?
Alors, on commence avec le thé. Le thé aussi a une activité contre la bactérie parce qu'il contient, comme le vin, il contient des polyphénols. Et on pense que c'est ça qui agit. Et donc là aussi, on a des études épidémiologiques qui montrent que dans des populations où on consomme beaucoup de thé, ben, y a moins d'hélico que chez ceux qui ne consomment pas de thé. Ça revient à peu près à la même chose, l'alcool en moins. Deuxième question, c'est on a toute une panoplie de diagnostics. Lesquelles sont les plus intéressantes? Et ben, actuellement, les plus intéressantes, c'est encore d'aller faire la biopsie parce que ça nous permet de faire l'antibiogramme. On parlait tout à l'heure du traitement orienté. Et que sur les traitements, sur les prélèvements non invasifs, les selles, le sang ou l'air expiré, on sait qu'il y a la bactérie, on ne sait pas si elle est résistante à tel antibiotique ou tel autre. Et donc maintenant qu'on fait du traitement orienté, il faut aller le chercher. Alors moi, je viens de mettre au point, là, de valider au laboratoire, un test qui permet dans les selles des patients de voir si elle est résistante ou pas. Et donc ça va peut-être un peu révolutionner les choses parce que ça permettra d'éviter la fibroscopie à tout prix. Alors des fois, la fibroscopie, c'est important. D'autant plus que les gens commencent à être un peu âgés et qu'on se dit qu'il faudrait peut-être aller voir s'il n'y a pas des lésions précancéreuses. Et là, il n'y a que la biopsie qui va permettre de le faire. Mais chez quelqu'un de jeune, où on sait qu'il y a de l'hélico dans la famille, etc., ben là, ça vaut le coup de peut-être se faire sur les selles, de lui éviter la fibroscopie. Et puis, on pourrait même se dire, on fait les selles directement. Si on voit que c'est infecté, eh ben, on va le traiter et avec le bon traitement, puisqu'on va savoir à quoi c'est résistant. Et puis, on va peut-être même l'envoyer chez le gastro-entérologue pour faire la fibroscopie à ce moment-là, mais pas le faire sur tout le monde qui n'est pas infecté, puisque l'infection maintenant, c'est que 30-20% des patients seulement.
Plus de questions ? Ben, on va donc clore la soirée. Merci encore à Christophe Burucoa. Merci à vous pour vos questions. Et c'était vraiment très, très intéressant. Bonne fin de soirée à tous. À bientôt.
Merci beaucoup.